RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, si vous aimez que l'on vous raconte des histoires, cette émission va vous plaire. Nous allons remonter le temps pour vous narrer comment, pendant la fin de la colonisation et au lendemain des indépendances, les Occidentaux ont brutalement expulsé des cultivateurs de leurs terres pour préserver une nature soi-disant vierge et sauvage en Afrique. C'était l'objectif du projet spécial africain imaginé en 1961 à Arusha, en Tanzanie, par des experts de la conservation avec la complicité d'organisations internationales comme l'UNESCO, l'UICN, l'Union internationale pour la protection de la nature, et quelques dirigeants africains. Alors comment financer tout cela? Eh bien en créant une banque, et ce sera la naissance du WWF, le World Wildlife Fund, ce qui se traduit par le Fonds mondial pour la nature que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'il est devenu l'une des plus importantes organisations mondiales de défense de l'environnement. Cette histoire documentée et retracée par l'historien Guillaume Blanc dans son dernier livre « La nature des hommes, une mission écologique pour sauver » entre guillemets l'Afrique, est non seulement passionnante à lire, mais surtout elle éclaire la manière dont les Occidentaux se sont acharnés pendant des décennies à surprotéger certaines zones du continent pour mieux en exploiter d'autres, pour défendre leur vision et leurs intérêts, mais à aucun moment au profit des populations locales.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Guillaume Blanc.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'environnement et de l'Afrique contemporaine, maître de conférence à l'université Rennes 2. Votre dernier livre, La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique, publié aux éditions de La Découverte, s'inscrit dans la continuité de vos travaux. Vous débutez d'ailleurs votre livre en écrivant « Chaque livre doit quelque chose à ceux qui l'ont précédé ». Et ce livre est notamment la suite de « L'invention du colonialisme vert », publié en 2020 chez Flammarion, qui avait été perçu comme un pavé dans la mare un peu à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce colonialisme vert? Parce que ça pose un peu les bases de la suite, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Dans ce livre, Le colonialisme vert, l'idée était en fait d'expliquer la violence de la nature africaine. Au sens où on sait qu'au XXe siècle, on a de 1 à 14 millions de bergers qui ont été expulsés des parcs africains.
Donc c'est la violence de la préservation de la
oui,
nature africaine.
Alors oui, pardonnez-moi, oui, je dis la violence de la nature, oui, de la mise en parc, en fait, de la nature. Et dans ce livre, j'avais essayé de comprendre pourquoi. Et donc j'avais essayé de retracer cette histoire en expliquant que des institutions que vous avez citées, l'UNESCO, l'UICN, le WWF, finalement, avaient essayé de naturaliser l'Afrique par la force, c'est-à-dire de déshumaniser beaucoup de territoires. Et c'est ce qui donnait cette histoire de colonialisme vert réapproprié par des dirigeants africains. Mais dans ce nouveau livre, c'est que j'ai essayé de me demander non pas le pourquoi finalement on le connaît, c'est que l'esprit colonial est resté. Le monde moderne devrait protéger l'Afrique des Africains.
Alors, vous allez nous raconter tout cela, évidemment, mais tout d'abord, j'aimerais préciser que vous citez les références que vous avez consultées sur une vingtaine de pages dans votre livre et que vous vous êtes aussi plongé dans des quantités immenses d'archives, plus de 130 000 pages, dites-vous.
Oui, alors en fait, pour trouver toutes ces archives, il faut du temps et de l'argent, donc c'est-à-dire les deux choses dont on ne dispose pas à l'université. Donc il faut monter des projets de recherche, bon, etc. Et les archives, j'ai été les collecter alors dans les archives de l'UNESCO conservées à Paris, qui l'UNESCO laisse accès tout à fait aux archives, dans les archives de l'UICN et du WWF en Suisse, mais après l'invention du colonialisme vert, curieusement, je n'ai plus accès à leurs archives, dans les archives de la FAO, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à Rome, et dans les archives de l'Empire britannique à Londres, et puis bien sûr des archives en Éthiopie. Et ça a donné voilà, environ 130 000 pages d'archives, où bien sûr il faut faire des choix pour essayer de le raconter de manière correcte, mais en même temps ces archives donnent à voir des acteurs et permettre de leur redonner une voix à tous, que ce soit aux experts, que ce soit aux colons reconvertis sur place en experts, aux dirigeants africains et aussi aux paysans, qui sont quand même les premiers concernés par cette
histoire. Alors, nous allons donner la parole à tous ces protagonistes à travers votre récit, qui est centré essentiellement sur l'Afrique de l'Est, parce que c'est votre terrain d'étude.
Oui, moi j'ai commencé mes recherches sur l'Éthiopie. Et en fait, on se rend rapidement compte qu'il faut replacer l'Éthiopie dans son contexte est-africain, donc Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, et puis les anciennes Rhodésies du Nord et du Sud, hein, Zambie, Zimbabwe, qui effectivement nous donne une histoire de prime abord très britannique, mais c'est vrai que les Britanniques ont été en fait les chefs de file de la conservation de la nature, même si en fait on a aussi les Italiens en Somalie, puis après les Somaliens, on a aussi les Britanniques encore une fois au Soudan, mais on a aussi dans une certaine mesure Djibouti, on a le Mozambique avec les Portugais, mais avec voilà une domination est-africaine, puisque les experts appelaient, je mets des guillemets, cette région la citadelle de la nature africaine.
Alors vous dites que ce livre, c'est aussi pour éclairer la violence qui existe encore aujourd'hui vis-à-vis des habitants des aires protégées, justement du Zimbabwe, de la Tanzanie, aussi en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Éthiopie et dans la plupart des pays africains finalement.
Oui, tout à fait. Là, on peut prendre, il y a quelques semaines, ce qui est assez dramatique, c'était l'UNESCO célébrait la fête du patrimoine mondial, qui a été créée, la convention en 72 et les premiers sites classés en 78. Et il y avait une ONG qui s'appelle Survival, donc qui a instauré un programme depuis 2019 qui s'appelle Décolonisons la protection de la nature, qui a manifesté ce jour-là devant l'UNESCO, notamment en parlant des Maasai, du Ngorongoro, donc on est dans le nord de la Tanzanie, près du parc du Serengeti. En 2022, ce sont environ 70 000 Maasai menacés d'expulsion qui ont manifesté et qui se sont fait tirer dessus à balles réelles. Or, on sait qu'il y a eu un policier mort, on sait qu'il y a des habitants portés disparus, d'autres emmenés en prison, et tout ça pour être expulsés des parcs, pour créer une zone de conservation entourée d'une réserve de chasse gérée par une entreprise de chasse des Émirats Arabes Unis.
Alors, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous avez décidé de vous arrêter sur un moment historique. Le 5 septembre 1961, une centaine d'hommes se réunissent à Arusha, en Tanzanie, donc, pour lancer ce projet spécial africain. Alors, tous partagent la même ambition, aider l'Afrique à sauver sa nature. Alors, de quelle nature parle-t-il ?
Alors, c'est bien le problème d'une nature totalement fantasmée. Quand ils parlent de la nature dans cette conférence, en fait, leur objectif est très clair. Il faut que la fin de la colonisation ne signe pas la fin des parcs qu'ils ont créés. Et alors, quand je dis « ils », c'est là où j'ai essayé de décortiquer ça dans le livre, ça va dépendre de qui, en fait. La nature va être définie selon, de manière différente, selon ceux qui en parlent. Et ceux qui organisent cette conférence, donc qu'on appelle des experts gentlemen, donc c'est vraiment eux, ils circulent entre Londres, Paris, etc., pour eux, c'est le bestiaire africain. Ce dont ils rêvent, je pense que l'image, tout le monde l'aura, c'est l'Afrique du Roi Lion. Ou l'Afrique du Serengeti, qui va être préservée, des milliers de gnous qui migrent chaque année pour aller dans une Afrique sans frontières. C'est l'Afrique des oasis, des forêts dites primaires, sachant que ça n'existe qu'en Afrique, les forêts dites primaires.
Oui, et puis sachant aussi que pendant la colonisation, comme vous le rappelez dans votre livre, il y a eu quand même, je sais pas, dans les années 1890, 65 000 éléphants abattus pour leur ivoire, des millions d'hectares de forêts défrichées par les Européens.
Totalement. En fait, c'est là où il faut, si on remonte à la colonisation, les Européens, quand ils tentent l'aventure coloniale fin 19e, ce qu'ils laissent derrière eux, c'est une nature européenne radicalement transformée par l'urbanisation, l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de la retrouver en Afrique. Et une fois qu'ils arrivent en Afrique, eh bien les colons vont tout simplement être incapables de reconnaître que les dégâts écologiques auxquels ils assistent, dont vous venez de parler, sont de leur propre fait. Et plutôt que de blâmer le capitalisme colonial, eh bien ils vont blâmer les Africains, et donc commencer à les expulser des parcs ou au moins à leur empêcher de cultiver la terre. Et donc cette nature dont ils rêvent, c'est une nature débarrassée de ses habitants.
Alors l'objectif de cette conférence, donc on est en 1961, c'est de définir une stratégie pour faire face à la destruction accélérée donc de la faune, de la flore et de l'habitat sauvage en Afrique. Alors qui assiste à cette conférence ?
Ce jour-là, donc, on a 140 hommes, à peu près, donc que des hommes, quelques femmes qui jouent le rôle de secrétaires, qui sont les femmes de ces experts gentlemen, qui eux nous viennent de métropole. Ensuite, on a des dirigeants africains, donc par exemple Julius Nyerere de Tanzanie, qui se fait porte-parole des nouveaux pays indépendants. Et puis on a, donc eux ils ont vraiment la vareuse coloniale presque, eux ils sont venus en voiture, on a des colons qui sont en train d'être mis au chômage par les indépendances et qui sont en train d'être reconvertis comme experts de terrain. Et le quatrième groupe, c'est le groupe dont tout le monde parle mais qui est absent, ce sont les paysans africains qui représenteraient le problème auquel faire face. Et donc cette stratégie qui va être définie, eh bien c'est comment aider l'Afrique à s'aider elle-même pour sauver la nature. Et tout va partir d'Arusha pendant 15 à 20 ans.
Alors, il y a un manifeste qui conclut cette conférence, s'appelle donc le manifeste d'Arusha, que vous citez dans votre livre, qui est signé donc de la main des trois représentants du Tanganyika, qui est l'ancien nom de la Tanzanie, donc le ministre de la le premier ministre Julius Nyerere, le ministre de la Justice Abdallah Saïd Fundikira et le ministre des Terres Tewa Saïd Tewa. Alors, leur manifeste, j'ai envie de le lire, ou à moins je vais peut-être vous laisser le lire, parce que c'est quand même assez édifiant.
La survie de la faune sauvage est un sujet de grave préoccupation pour nous tous en Afrique. Non seulement ces créatures sauvages au milieu des lieux sauvages qu'elles habitent sont d'une importance source d'émerveillement et d'inspiration, mais elles font aussi pleinement partie de nos ressources naturelles, de nos moyens de subsistance et de notre futur bien-être. En acceptant la tutelle de notre faune sauvage, nous déclarons solennellement que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir aux petits-enfants de nos enfants qu'ils pourront apprécier ce riche et précieux patrimoine. La conservation de la faune et des lieux sauvages requiert un savoir spécialiste, une main-d'œuvre formée et de l'argent, et nous attendons des autres nations qu'elles coopèrent pour mener cette tâche importante. Son succès ou son échec concerne autant le continent africain que le reste du monde. »
Donc là, on voit bien que finalement, c'est la décision de mettre sous tutelle la conservation de la nature sur une partie de l'Afrique.
Exactement, Julius Nyerere le dit, en gros, nous avons besoin de vous, aidez-nous. Et on sait d'ailleurs que c'est l'un des fondateurs du WWF, Peter Scott, qui en fait aurait écrit ce manifeste pour qu'il soit lu par Julius Nyerere. Mais Julius Nyerere, on va y revenir après, Julius Nyerere sait très bien ce qu'il fait. Il ne se laisse pas manipuler, il prétend se laisser manipuler.
Et donc, à cette conférence, il y a l'UNESCO qui est impliquée, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et il y a la création qui arrive après, parce qu'il faut financer tout cela, du WWF.
Voilà, exactement. En fait, tout ça, ça s'est fait en l'espace d'un an, un an et demi. Le projet spécial africain, son lancement est décidé un an auparavant, en 1960, en Pologne, à Varsovie. Il est annoncé par l'UICN. Et ils définissent trois étapes. Un, rencontrer des dirigeants africains pour discuter des principes de la conservation. Et là, c'est Gerald Waterson qui travaille à la fois pour les Nations Unies, à la FAO, et qui va agir pour l'UICN, qui va visiter pendant 3 mois une vingtaine de pays africains. Donc, il part d'Afrique de l'Ouest, il arrive en Afrique de l'Est, il descend vers l'Afrique australe, on va dire. Il arrive jusqu'en Rhodésie du Sud. Étape 2, organiser une grande conférence sur la protection de la nature. C'est Arusha, en 61, et étape 3, envoyer des experts. Et pour cette étape 3, eh bien, la création du WWF est annoncée au Tanganyika à Arusha en disant « ça y est, nous avons une banque pour financer l'envoi des experts ». Et cette banque est basée en Suisse, car les experts le disent, il ne faut pas qu'on ait un siège dans une nation qui possède des colonies, parce que le siège aurait été à Bruxelles, comme l'UICN, et donc il déménage dans un pays neutre, donc la Suisse.
Et à partir de là, toute une armée d'experts, vous l'avez évoqué, va se mettre en place pour mener à bien ce projet avec la complicité des dirigeants africains. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord place à la musique sur RFI avec le Nigérian Fela Kuti et son titre qui résonne particulièrement dans cette émission « Colonial Mentality ». We'll be right back.
follow mentality.
If you say if you call me a man, you don't be slave and before. They don't release you now, but you never release yourself.
I say you fit in, never release yourself. Colon mentality.
If you say if you colonial man, you don't be slave and before. They don't release you now, but you never release yourself.
If you so. So them they do, them they overdo all the things that them they do.
He be so,
be so them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do.
He be so,
he be so them they do, them they think he said they better pass them, brother. No be so,
he be so,
he be so them they do, them they think he said they better pass them, brother. No be so,
he be so.
The thing with black no good, the foreign things them they like. No be so,
he be so.
The tin we black no good. Now foreign things them they like it not be so.
It be so.
Them go turn your yeah, condition and close them country away. Not be so.
It be so.
Them go turn your yeah, condition and close them country away. Not be so.
It be so.
Them judge him go cocky weak and jail him brother away. Not be so.
It be so.
Them judge him go put him weak and jail him brother away. Not be so.
It be so.
Them go proud of them name and put them slave name for heading, not be so.
It be so.
Them go proud of them name and put them slave name for heading, not be so.
It be so.
Colon mentality now make you hear me now.
Le Nigérian Fela Kuti et son titre Colonial Mentality sur RFI.
RFI.
Le gris du métal, le jaune de l'or, le suintant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent, la peur de ne pas en avoir assez, au point de spolier tout ce qu'ils croisent sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous sommes en compagnie de l'historien Guillaume Blanc qui vient de publier La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique, publié aux éditions de La Découverte. Alors Guillaume Blanc, vous intéressez dans ce livre à un moment historique, nous l'avons déjà évoqué, le 5 septembre 1961. Une centaine d'hommes se réunissent à Arusha en Tanzanie pour lancer le projet spécial africain qui a pour ambition, je cite, d'aider l'Afrique à sauver sa nature, ce qui veut dire en gros préserver les parcs nationaux élaborés pendant la colonisation.
Tout à fait. C'est, le but est de continuer, mais cette fois-ci avec des dirigeants africains, mais le même objectif d'une naturalisation à l'excès, c'est-à-dire qui va consister à empêcher des agricultrices, agriculteurs, paysannes, paysans à cultiver la terre, à l'habiter, à chasser du petit gibier et même finalement à les expulser de plus en plus avec ce paradoxe qu'en fait la fin de la colonisation va presque représenter une opportunité pour les conservationnistes, puisqu'à l'époque coloniale, ils ne pouvaient pas non plus expulser à tout va, puisque pour maintenir l'ordre colonial, il fallait quand même ménager les colonisés et éviter les révoltes. Mais une fois que la protection de la nature théoriquement se dépolitise, puisqu'il n'est plus question de colons qui protègent, mais d'experts qui aident à protéger, eh bien les expulsions vont se multiplier et la violence de la nature va s'intensifier.
Alors, il y a quatre catégories d'acteurs dans cette histoire. Alors, vous attachez dans votre livre, justement, à décrire cette période historique des années 50 aux années 70, des quatre points de vue. C'est assez chouette à lire, je dois dire. Alors, il y a tout d'abord ces experts gentlemen. Alors, eux, leur grande crainte, leur obsession, c'est quand même l'impact de la croissance démographique sur des espaces soi-disant vierges et sur une faune sauvage à protéger. Et là, il leur semble que l'Afrique est le seul continent où la catastrophe peut être enrayée.
Oui, alors, je dis juste un mot sur... C'est vrai que si j'ai essayé de faire ces quatre histoires, c'était davantage pour me dire, bon, très bien, la nature, il y a une violence de la protection de la nature, mais il faut essayer de redonner une voix à tout le monde, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, que leur action nous plaise ou non. Et donc, on essaye, comme historienne, historien, de se mettre dans leur tête. Et là, effectivement, ils ont une angoisse de la bombe P, la bombe population. Et ça débute dans les années 50, ça prend une ampleur dingue dans les années 60. Dans tous leurs écrits, ils parlent de la disparition des espèces, ils parlent de l'urbanisation, de l'industrialisation, avec une phrase qu'ils répètent beaucoup à l'UICN, la nature a été mise au tapis. Et donc, ils sont vraiment persuadés que plus il y a de gens, et plus la nature va disparaître. Ce en quoi ils n'ont pas tort. Mais ils ne vont pas regarder l'Amérique du Nord, ils ne vont pas regarder l'Europe de l'Ouest, ils vont regarder l'Afrique. Et il va y avoir deux raisons à cela. D'abord, parce que la nature y est encore plutôt préservée. Mais la deuxième raison, ce n'est pas seulement que la nature est encore préservée en Afrique, c'est que l'Afrique leur semble le seul continent où il est encore possible d'agir. Et alors, ils sont vraiment sincères, c'est ça le plus étonnant à voir dans les archives. Selon eux, en Afrique, la nature va disparaître parce que les Africains sont beaucoup trop nombreux, se reproduisent de manière inconcevable, irréfléchie. Je vous cite une de leurs phrases que j'ai voulu vous amener quand même. Carnet de l'UICN en 1965. Mzee Atambala, l'un des plus vieux habitants du Kenya, vient de mourir. Il avait 140 ans, il avait 10 femmes, 103 enfants, dont 87 sont maintenant mariés. C'est avec cette peur absurde de la surpopulation qui vont justifier l'expulsion des populations.
Difficile de vérifier s'il avait vraiment 140 ans.
Oui,
et autant d'enfants.
Et bon, en étant objectif, on peut quand même en douter. Et on a aussi Julian Huxley, le premier président directeur de l'UNESCO, qui a des phrases en disant « Je tiens d'une personne de confiance en Tanzanie que, en fait, ils n'ont pas de fait empirique, mais une croyance. Et cette croyance, c'est le problème, c'est qu'ils se disent, si on veut préserver un peu de nature, il faut vider les parcs africains. Il faut au moins sauver cela. Et ils en sont persuadés, et c'est ce qui va guider, en fait, eh bien, une politique néo-malthusienne dont une chercheure éthiopienne en 1970, elle les qualifiera de plaisantins de l'apocalypse en disant, réfléchissez bien, les surnuméraires, c'est toujours les autres.
Oui, parce que la conservation, c'est d'abord une affaire de terrain. Vous l'écrivez, il y a les grands discours, mais sans les gardiens de parc, la grande faune africaine mourra. Alors, dans cette action, ce que je demande, ce sont des balles et des obus, lance le directeur des parcs nationaux tanzaniens John Owen au délégué d'Arusha en 1961. Et vous écrivez, fidèle à son habitude, le Britannique tient sa pipe encore fumante d'une main, de l'autre à la manière d'un prédicateur. Owen lève un doigt au ciel et après une courte pause, il conclut « Je veux de l'argent le plus vite possible ». Donc là, le WWF se met en marche et on arrive à la deuxième catégorie, les colons qui sont sur place. Alors eux, ils sont chargés finalement de mettre en place cette politique de préservation.
Voilà, et je dirais même, ils sont chargés de la perpétuer parce qu'en fait, ils sont déjà là. John Owen, il est arrivé, là on est en Tanzanie, il est arrivé à la fin des années 40, vers 46. Ça fait 15 ans, à ce moment-là, qu'il dirige déjà des parcs tanzaniens. Et avant, il les dirigeait, et maintenant, il va être conseiller. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils sont habités vraiment par un mythe, le mythe de la dégradation. Mais eux ont des chiffres. Ils ont, par exemple, un chiffre qui date de 1946, selon lequel 75% de la grande faune des parcs est-africains aurait disparu. Alors attention, on n'a aucun animal cité, on n'a aucun territoire.
Alors d'où sort ce chiffre?
Eh bien, on le doit à Arthur Creech Jones, qui était le président du bureau Fabien pour le développement, en fait, en Angleterre. Et un expert qui lui a dit, je pense que dans tel parc, 75% de la faune a disparu. Il a relayé ce chiffre à tous les gouverneurs de l'Afrique de l'Est britannique en 47. Et ce chiffre continue, 15 ans après, à tout diriger. Et c'est ce qui amène ces colons qui se reconvertissent en experts internationaux à créer ces parcs, à en créer d'autres. Et ils vont, en fait, eux, ils rêvent du bestiaire africain qu'ils veulent recréer. Et là, ils se lancent dans un projet encore plus fou qu'on appelle le game cropping, qui littéralement en français se traduirait par récolte de faune. Il faut se mettre dans leur tête. Eux se disent, bon, il y a un problème en Afrique, c'est que les habitants qui sont trop nombreux, donc cultivent trop de bétail, des moutons, des chèvres, des zébus. Et ils se disent, là je vous cite un autre expert qui s'appelle John Blower, où il dit, mais attention, l'Africain est un réaliste, aucune politique ne suffira à lui faire accepter d'abandonner son bétail. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent le but, et que nous remplacions dans le régime alimentaire des Africains, les moutons, chèvres ou zébus, par des gorilles, des éléphants, des rhinocéros, etc. Et donc, ils se mettent à élever de la grande faune dans le parc du Tsavo au Kenya, dans le parc Elizabeth en Ouganda. Et donc, dans ces deux parcs, par exemple, c'est 1000 hippopotames qui vont être abattus chaque année, 3000 éléphants qui vont être abattus au Tsavo. Et ensuite, ils vont faire appel à des bouchers africains pour aller distribuer la viande dans les alentours. Avec deux petits problèmes. C'est que, un, ils interdisent toujours aux Africains alentours de chasser. On leur propose de manger de la viande abattue par des colons européens. Et deux, ils ne prévoient ni la réfrigération de la viande, ni le fait que les populations locales pourraient en bénéficier. C'est uniquement pour les zones alentours. Et puis, ils ne prévoient surtout pas que les habitants n'ont pas envie de manger des rhinocéros ou de manger des éléphants. Donc, c'est un échec, mais qui non seulement dure quand même une dizaine d'années, et qui nous révèle que l'objectif pour ces colons experts, ce n'est pas de protéger la nature, c'est de la contrôler.
Et alors là, on arrive donc à la troisième catégorie, sans laquelle rien ne serait possible, c'est celle des dirigeants africains qui naviguent un peu dans l'entre-deux. Hein. Ils sont demandeurs d'hommes expérimentés et pour pouvoir aussi asseoir leur propre politique.
Alors, tout à fait, il ne faut pas le nier, au début des années 60, quand les États africains deviennent indépendants, il y a une logique de dépendance envers le monde extérieur. Pour construire leur nation, ils ont besoin de l'aide extérieure et de la reconnaissance et des fonds. Donc quand on prend les archives dont nous avons parlé tout à l'heure, quand on regarde le quotidien d'un dirigeant est-africain de la nature, c'est passer sa journée à demander de l'aide. Demander de l'aide à la New York Wildlife Society, demander de l'aide à la Rockefeller Foundation, au WWF, à l'UICN, demander des camions, demander des sous, etc. etc. Là, ça serait la logique simpliste. Ah bon, ben, ils sont dépendants. Mais comme le dit un politiste qui s'appelle Jean-François Bayard, la dépendance est un mode d'action. Si on revient sur le manifeste dont nous avons parlé de Julius Nyerere, oui, en anglais, il lit ce manifeste où il en appelle au monde extérieur. Mais qu'est-ce qu'il diffuse dans la presse écrite en swahili ? Eh bien là, il dit lui-même, les Occidentaux veulent de la nature. Personnellement, je n'ai pas l'intention d'aller regarder des crocodiles barboter dans l'eau pendant mes vacances. Mais si c'est ce qu'ils veulent, nous allons leur donner et nous allons faire de la nature la plus grande richesse de Tanzanie. Et Julius Nyerere est extrêmement habile. Qu'est-ce qu'il fait ? Quand il expulse les habitants des parcs, par exemple à Amboseli, à Arusha, où est-ce que vont les habitants ? Ils vont être déplacés dans des fermes communautaires. Parce que Nyerere est en train de construire la Tanzanie socialiste, Ujamaa, tous ensemble. Et ces habitants vont être déplacés dans les fermes communautaires qui servent à la Tanzanie à construire la nation.
C'est un sens partagé, finalement, d'une sorte de paternalisme d'État.
Tout à fait. Les dirigeants africains vont partager avec leurs prédécesseurs coloniaux ce sens paternaliste. Et encore une phrase de Nyerere, il le dit lui-même, « Si les paysans ne sont pas capables d'agir pour leur propre bien, alors ils seront contraints de le faire. » Et Nyerere va mettre en place une véritable diplomatie de la faune sauvage. Il faut imaginer que quand le Japon organise l'Expo universelle de 1967, que la Tanzanie est invitée, la Tanzanie amène dans ses valises deux léopards. Et ces deux léopards, qui s'appellent Modernité et Solidarité...
Quand même.
Voilà. C'est la devise de la Tanzanie. Mais c'est ce qui sert à la Tanzanie à recevoir de l'argent, des fonds, et à construire son État. Et en fait, c'est tout simplement l'art de naviguer. C'est-à-dire que naviguer entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est une façon comme une autre d'être à la maison. Et c'est comme ça que se construit un État postcolonial africain. Et les parcs sont tout simplement un outil de cette navigation entre deux mondes.
Mais aujourd'hui encore, la Tanzanie est une destination touristique pour aller voir la faune africaine.
Ah, tout à fait. Le parc dont je vous parlais tout à l'heure, le parc du Ngorongoro, ce n'est pas l'UNESCO qui impose l'expulsion des populations. Ce n'est pas la Frankfurt Zoological Society qui impose. L'UNESCO donne des critères préservés. La Frankfurt Zoological Society donne des experts comment préserver. Et eux ne font que recommander l'éviction des populations. Mais qui la met en place ? les autorités tanzaniennes, la police tanzanienne. Et en fait, cette alliance entre l'expert occidental et le dirigeant africain se fait dans les années 60. Et donc, ça serait une vision très simpliste de parler de néocolonialisme. Non, nous sommes en France, et on l'a vu récemment, le paternalisme envers les agriculteurs et les paysans, c'est le propre d'un État moderne. Et l'Afrique ne fait pas exception.
Alors, la quatrième catégorie, ce sont les paysans. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, puisque il y a beaucoup moins d'archives. Hein. Ils n'existent pas ou peu, quasiment. Donc, vous avez élaboré des scénarios, parce que vous parlez amharique, la langue éthiopienne. Et donc, vous avez mis en place des profils, hein, pour essayer de raconter leur histoire.
Voilà. Alors, c'est la grande difficulté et le grand intérêt de l'histoire de l'Afrique. Je vous épargne tous les débats sur lesquels nous, entre historiennes, historiens, on est ravis d'écrire une centaine d'articles très pointus. Mais la grande question, comment rendre une voix aux anonymes, c'est-à-dire ceux qui sont absents des archives.
Des paysans alors que les expulsés archives... des parcs, par
ouais,
exemple.
Exactement. Ouais. Paysans expulsés, paysans qui reçoivent des amendes, paysans qui tout simplement ne sont plus là. Alors comment faire ? En fait, on les a dans les archives. Mais après avoir raconté trois histoires où les experts gentlemen sont nommés, Julian Huxley, Worthington, les colons experts sont nommés, John Owen, Mervyn Cowie, les dirigeants africains ont des noms, Mebratou, Kidane. Eh bien, pour les paysans, j'ai essayé de leur donner des catégories, ce que je dois justement à un ami qui s'appelle Kidane Waldegiorgis en Éthiopie, qui parle bien mieux amharique que moi naturellement. Et donc les catégories de paysans, on a Deo, qui veut dire être privé, être pauvre. On a Mengust, qui veut dire celui qui détient le pouvoir. On a Seratenya, qui veut dire celui qui travaille. Et on a Yemi Yastekaklu, le débrouillard. Et là, c'est pour mettre en avant la pluralité de façons d'agir ou de subir ou de contester cette nature.
La capacité de s'adapter, finalement.
Exactement. Alors, bien entendu, hein, là encore, il ne faut pas rêver la capacité d'action. Vivre en parc, c'est d'abord être privé, donc être pauvre. C'est-à-dire être privé de moyens de subsistance. On n'a plus le droit de cultiver la terre. On a plus
Sauf les colons autour de leur maison.
Ah, bien sûr. Mais pour les paysans, privé de son champ, de sa terre. C'est aussi être privé quand même de sa maison, puisque les maisons vont être détruites, vont être brûlées, les extensions de maisons en bois et en torchis interdites. C'est aussi être privé de sa dignité. Dans les archives, j'ai pu le relever à des centaines et des centaines de cas, on a par exemple un expert qui s'appelle Peter Hay, qui va carrément aller passer à tabac un cultivateur devant sa femme et ses enfants, pour avoir cultivé sa terre. Il va le rosser de coups, il va brûler sa récolte, il va tuer ses animaux de trait devant ses enfants. Et puis, c'est être privé tout simplement d'un droit dont bénéficient tous ceux qui vivent à l'extérieur, du droit à la terre. Donc on a cette véritable privation. C'est pour ça cette catégorie déo, être pauvre, parce qu'être pauvre, c'est être privé. Et puis, on a le débrouillard, en amharique, Yemi Yastekaklu. Je vous donne juste une anecdote. Des bergers qui n'ont plus le droit d'aller faire pâturer leurs bêtes dans le parc. Eh bien, comment ils font ? Chaque matin, ils amènent leurs troupeaux à la frontière du parc. Et là, ils sortent leur fouet, leur fusil. Ils donnent plusieurs coups en l'air ou près de leurs bêtes. Et ils forcent les bêtes à s'enfuir dans le parc. Et donc, les bêtes vont pâturer toute la journée. Et là, les scouts de parc, donc africains et avec un gardien-chef étranger, lui... Eh bien, toute la journée, traque les paysans. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ils les trouvent en fin de journée en leur disant « Bon, vous êtes priés de venir récupérer vos bêtes. » Et les paysans leur répondent, on l'a hein, dans les carnets de scouts, « Oui, pardonnez-nous, vous savez ce que c'est, hein, les animaux domestiques, on n'arrive pas bien à s'en occuper. » Voilà comment ils se débrouillent dans les parcs.
Le débrouillard, donc, mais malheureusement, dans bien des cas, c'est la violence hein, qui arbitre les conflits autour de la préservation de la nature. Et nous en parlerons dans un instant, mais d'abord... Place à la chanteuse et militante antiraciste brésilienne Bia Ferreira sur RFI.
Eu falo alto, grito mesmo, vê se não implica. A altura da minha voz é do mesmo tamanho da sua dívida. Mais de 500 anos, juros até multiplica. Com correção monetária adicional por covardia conta alta. Eu tô aqui pra cobrar. Incomodar a verdade, daí, né? Eu tô ligada. E nessa fila
Que é pra não te esquecer que a sua herança vem de muitos pretos que não estão no raso, que foram parar no fundo do mar. Esse mesmo que cê gosta tanto, o sal que cê vê lá na praia é fruto do canto dessa multidão que não teve chance de nadar ou se salvar, porque era amarrado antes. Se vier com história de mimimi incoerente, não se ilude, branquitude. Cês devem até os dentes, a conta vem. Amém? Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? A conta vem. Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. Tu mastiga comida e quando sobra vai pro lixo. Prefere jogar fora do que dá pra um faminto. E compra pro cachorro só ração fina de quilo. E pra empregada paga menos do que um salário mínimo ínfimo. O seu desejo de mudança no seu íntimo só quer um like. Intolerância é a regra e ninguém erra. Só senta em cima do seu rabo e procura uma plateia pro seu show de horrores. Caminhando pra um abismo, usam ética e moral pra justificar seu racismo. Eu já tô de olho, vigiando você, aqui defende racismo reverso em plena TV de tela plana. Terra plana, num plano de genocídio, quem anda em cima da grama é bendito, porque tá vivo e resistiu a mais um dia contra esse plano maligno que cega todo dia, do amém até o dízimo, que é obrigatório, pois é mandamento bíblico. Dinheirinho sujo que já sai de helicóptero, limpo, abençoado, pra deixar o pastor próspero. Amém,
amém.
Tá bem, ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? Amém,
amém.
Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. Amém, cê tá bem, ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? Amém, Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. A dívida é alta, eu vou começar a cobrar 48 vezes se foram lá depositar. Mansão de 6 milhões, eu nem sei quantos andares. Famílias indígenas, vítimas da Damares. Essa dívida extrapola até outros patamares. Teve início muito antes de Zumbi dos Palmares. Povos originários já estavam aqui primeiro. É melhor reconhecer porque agora ficou feio.
Même François Porcheron danse dans le studio. La chanteuse brésilienne Bia Ferreira, que vous pouvez retrouver comme de nombreux artistes sur la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Le problème de la transition écologique, on le représente en disant que c'est l'État qui essaye de venir à bout des résistances de la société civile.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Mais c'est pas ça en fait. La transition écologique, c'est la société civile qui essaye de venir à bout des résistances de l'État. Ce qu'il faut déverrouiller fondamentalement, c'est l'inertie intellectuelle des gens qui gouvernent.
Et nous sommes en compagnie de l'historien Guillaume Blanc aujourd'hui, qui vient de publier La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique, publiée aux éditions de La Découverte. Alors cette histoire que vous racontez, Guillaume Blanc, a posé les bases d'une conception de la conservation de la nature qui génère encore aujourd'hui de la violence à l'encontre des populations locales. Ça a évolué, mais c'est toujours un peu dans un coin de la tête des politiques de conservation.
Oui. Ça serait bien sûr trop simpliste de dire que ça n'a pas évolué, que les institutions internationales n'ont pas reconnu leurs erreurs. Mais malheureusement, sur le terrain, la violence a continué parce que l'idéal d'une nature africaine vierge, sauvage, édénique a continué. Dans le livre, j'ai fait ces quatre groupes d'acteurs. Mais si on les reprend pour voir aujourd'hui le temps présent, là, on peut voir la continuité. Quand il y a 2 ans, le numéro 2 de l'UNESCO, Ernesto Otoner Ramirez, qui critiquait mon livre, j'étais très fier, dans le Monde, en disant que c'était une fake news et que l'UNESCO n'avait jamais expulsé les populations. Ce sont leurs archives. Alors c'est vrai que l'UNESCO n'expulse pas. L'UNESCO recommande un déplacement volontaire dans une démarche participative et concertée. Mais disons-le franchement, il recommande que les parcs soient vides. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. Quand on prend les deuxièmes, les colons experts, et qui maintenant sont des experts de terrain, quand aujourd'hui la Tanzanie expulse des dizaines de milliers de Maasai en étant conseillée par la Frankfurt Zoological Society. Oui, la Frankfurt Zoological Society n'expulse pas, mais qui met en avant le fait que les agriculteurs africains seraient destructeurs et qu'il faudrait les empêcher de détruire ? La Frankfurt Zoological Society.
Oui, après, il y a quand même beaucoup d'organisations scientifiques. Par exemple, dans C'est pas du vent, nous donnons souvent la parole aux scientifiques de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement, ou du CIRAD, le Centre International de Recherche en Agronomie pour le Développement, qui, eux, travaillent étroitement avec les agriculteurs, souvent pour les aider, justement, à s'adapter en tenant compte de leur savoir, par exemple, aux conséquences du changement climatique.
Ah oui, alors tout à fait. Alors attention, je précise, parce que j'ai beaucoup de collègues et à amis au CIRAD et à l'IRD. L'IRD et le CIRAD sont des scientifiques. Eux, ils vont dans un pays, l'Éthiopie. Ils parlent une des langues, donc l'amharique, le tigrinya, l'oromifa. Un expert, sa raison d'être et même ce qu'on va lui demander, c'est de voyager dans 20 à 25 pays dans la même année pour aller dispenser les mêmes conseils. Mais quand on voyage dans 25 pays la même année, on n'en connaît malheureusement souvent aucun.
Selon vous, l'UICN, l'UNESCO et le WWF n'ont pas vraiment évolué ?
Mais écoutez, moi, le jour où je les entendrai dire qu'ils sont contre les expulsions et qu'ils ne subventionneront plus aucun parc qui expulse ou qui criminalise des populations, je vous répondrai bien sûr qu'ils ont changé.
Mais... Parce que les réserves Men and Biosphere, par exemple, de l'UNESCO, qui justement... partent du principe qu'on peut conserver en tenant compte de la présence des populations et avec les populations.
Tout à fait. L'UNESCO, c'est là le problème. C'est pas tout noir ou tout blanc. L'UNESCO a des projets comme Man and Biosphere qui marchent véritablement parce que les hommes et les femmes vont être inclus dans ces zones de protection. Alors effectivement, on pourrait me dire bon, pourquoi t'es pas chercheur sur les projets Man and Biosphere ? Bon, moi je suis chercheur sur les parcs. C'est quand même... environ 350 à 400 parcs. On parle d'une dizaine de millions d'habitants expulsés, d'une centaine de millions d'habitants criminalisés. Moi, c'est vrai que je fais mes recherches là-dessus. Dans les parcs, l'expulsion, la criminalisation continue. Même si je ne cache pas, et encore heureux, parce que sinon, il y aurait des résistances, des révoltes, qu'il y a bien d'autres choses qui se font. Mais que l'UNESCO prenne le leadership là-dessus en disant nous arrêtons les parcs et tout devient des réserves Man and Biosphere. Et là, ils seront leaders d'une écologie sociale et donc une écologie qui marchera.
Le message est passé. Alors, ceux qui sont nombreux à vivre la violence au quotidien, et c'est un indicateur, ce sont les journalistes environnementaux. L'UNESCO, justement, vient de publier un rapport alarmant intitulé « Presse et planète en danger ». L'Organisation des Nations Unies a réuni à Santiago du Chili plus de 2000 personnes venues des quatre coins de la planète pour la Journée mondiale de la liberté de la presse et la liberté d'expression. Notre correspondante Marion Henault y a rencontré des journalistes qui témoignent de leur situation.
Pour sa 31e conférence pour la liberté de la presse, l'UNESCO s'est installée cette année au cœur de la capitale chilienne, Santiago. Pendant trois jours, des représentants de gouvernement, des ONG, des professionnels des médias cherchent des solutions pour assurer la sécurité des journalistes qui traitent de sujets environnementaux et qui sont de plus en plus menacés. Le sous-directeur général chargé de l'information et de la communication à l'UNESCO, Taoufik Gelassi, qualifie d'inquiétant le rapport publié ce 3 mai et il nous livre quelques chiffres.
Nous avons recensé 749 attaques dans 89 pays sur des journalistes ou des médias enquêtant sur des sujets environnementaux. 70% des journalistes interviewés rapporte avoir été victime d'attaques, de menaces, d'harcèlement en ligne ou de pression. Près de la moitié de ces journalistes déclarent s'être déjà auto-censurés par crainte d'être victime d'attaques ou d'exposer leurs sources. Ces pourcentages-là, que j'ai cités, sont en nette progression.
Autre chiffre interpellant, 41% des journalistes déclarent avoir été victimes d'agressions physiques. C'est le cas de Manuel Caloquispe. Journaliste péruvien, il vit dans le sud-est du Pérou et couvre depuis 15 ans la mine illégale, la déforestation et la pollution dans cette région de l'Amazonie où il a grandi.
Ces dernières années, j'ai dû demander à 6 reprises une protection de l'État pour ma vie. Mais en réalité, ces mesures de protection ne sont pas appliquées. Les groupes armés se lient à la politique, avec les forces armées, les juges. Et tu ne sais pas où est vraiment l'ennemi. On doit se protéger nous-mêmes. Moi, je sors avec un gilet pare-balles, un casque de protection militaire. J'ai décidé de rester et me confronter à ça, parce que le pouvoir de la mine illégale s'étend, le trafic de terre aussi. Donc, quelqu'un doit faire le difficile travail d'informer. En plus, l'Amazonie de Madre de Dios est une des moins déforestées du Pérou. Et on ne peut pas perdre ça. Moi, je suis un enfant de l'Amazonie. Et la meilleure façon de se battre, c'est d'informer sur le risque qu'encourt l'Amazonie.
« D'autres journalistes, comme Frédéric Mujila, n'abandonnent pas non plus malgré les intimidations. Ougandais, Frédéric a fondé Water Journalist Africa, un réseau de journalistes africains qui réalise des reportages sur l'eau, le changement climatique et la faune sauvage.
Les journalistes qui appartiennent à notre réseau font souvent face à de grands défis. Par exemple, les lois de restriction de l'information du gouvernement nous empêchent d'écrire ouvertement. Il y a aussi des entreprises qui font tout pour que les journalistes n'écrivent pas sur leurs intérêts. Beaucoup de journalistes ont décidé de faire marche arrière parce qu'ils ont peur du gouvernement, des entreprises. Ils pourraient être arrêtés, être poursuivis en justice.
Certains journalistes sont aussi poussés à l'exil. 205 en Amérique latine et Caraïbes entre 2022 et 2023 selon l'ONG Voces del Sur. C'est le cas d'Andrea Ichiu, jeune journaliste guatémaltèque, membre du peuple Mawakiche. Son territoire a été envahi par les entreprises du bois. Elle est exilée au Mexique depuis 2 ans.
En
2020, j'ai été agressée par les entreprises du bois. Ils m'ont poursuivie, ils m'ont frappée, ils voulaient me prendre mon matériel et après ils ont continué à me harceler en surveillant ma maison, en m'envoyant des menaces de mort. Cette même année 2020, le gouvernement du Guatemala a persécuté et criminalisé beaucoup d'activistes. Ma sœur, des compagnons et moi sommes poursuivis pénalement, mais tout ça c'est des inventions et l'exil s'est présenté comme l'unique solution pour garantir notre liberté.
Ces 15 dernières années, 44 journalistes environnementaux ont été tués, principalement en Asie et en Amérique latine. Seulement 5 de ces assassinats ont été condamnés. Un taux d'impunité très élevé que l'UNESCO a annoncé combattre avec un plan de renforcement juridique pour 500 journalistes dans le monde entier.
Guillaume Blanc, vous êtes historien. Que vous inspire cette réalité décrite par Marion Henault ?
À la fois que c'est dramatique, puisque on le sait que la sixième extinction est en cours, qu'on court à la catastrophe, et les journalistes se font abattre pour le dénoncer. Et l'UNESCO, heureusement, le dénonce. Mais pour revenir au sujet qui nous occupe, je dirais qu'il y a même encore plus triste. Finalement, quand l'UNESCO défend ces journalistes, c'est que ces journalistes ont une identité, ils ont une fonction sociale. Mais quand l'UNESCO défend des parcs où les paysans subissent la même chose, pourquoi eux ne sont pas défendus ? Eh bien là, c'est l'histoire, mais une phrase de Du Bois, qui est un militant états-unien anticolonialiste début XXe siècle, qui disait que les paysans africains restaient des tierces choses aux yeux du monde. Et malheureusement, ça n'a pas changé. Désolé, c'est pas une note très positive.
Non, c'est difficile de terminer là-dessus, mais c'est tout de même la fin de cette émission. Merci beaucoup, Guillaume Blanc, d'être venu dans C'est pas du vent.
Merci beaucoup.
Merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Continuez à nous écrire par mail et à échanger avec nous sur les réseaux sociaux où vous trouverez plein d'informations complémentaires comme sur la page internet sur rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.